Les services de renseignement britanniques, américains savaient qu'une menace planait sur l'aéroport de Kaboul. Et on vous donnera plus de détails tantôt. Hier, deux explosions, donc attentats suicides. Le bilan varie énormément. 60, 90, 100 morts du côté afghan, 13 soldats américains. Fabrice de Pierrebourg est avec nous. Avant de revenir sur les attentats puis le fait que c'est l'État islamique qui a revendiqué, Fabrice, tu as pu apprendre dans les dernières heures là, qu'il y a au moins une quinzaine d'employés afghans de l'ambassade canadienne qui seraient laissés seuls à leur sort à Kaboul.
Oui, c'est une histoire vraiment incroyable, Paul. On savait déjà qu'il y avait des traducteurs, hein, puis je vous ai souvent parlé du cas d'un traducteur que je connais, qui travaillait pour les forces armées canadiennes et qui était sans nouvelles du Canada, qui était vraiment désespéré. Ben là, cette nuit, j'ai appris, grâce à un collègue franco-afghan avec qui j'ai travaillé quand j'étais à Kaboul cet été, qu'il y a une quinzaine d'employés de l'ambassade, donc vraiment des employés du Canada, qui sont là-bas depuis environ 2015-2016. Alors de quoi parle-t-on? Ben, de chauffeurs, de cuisiniers, d'électriciens. J'ai obtenu, Paul, les copies des badges d'accès de plusieurs d'entre eux qui sont valables jusqu'en 2023. J'ai aussi des attestations d'emploi qui ont été rédigées ce printemps. Et tous vont, c'est assez déchirant, tous les jours à l'aéroport en espérant pouvoir être évacués. Depuis le début, Paul, des évacuations, c'est-à-dire à la mi-août, quand les talibans sont rentrés à Kaboul, ils cherchent désespérément à joindre quelqu'un à Ottawa, ils ont appelé tout le monde à l'ambassade. Ils n'ont eu, disent-ils, aucun retour du Canada. Et ils sont évidemment désespérés. Et il faut savoir qu'hier, en entrevue avec Patrice Roy, Marc Garneau, donc le ministre des Affaires étrangères, a reconnu que l'ambassadeur et tous les employés de l'ambassade avaient filé de Kaboul, étaient partis dès le 16 août. Et lui avait dit, c'était l'ambassadeur qui avait jugé bon, que c'était plus sécuritaire de quitter, alors qu'on sait que beaucoup de pays étrangers ont laissé en place au moins une cellule de crise. Certains pays comme la Grande-Bretagne, les États-Unis, la France ont ouvert une sorte d'ambassade annexe à l'aéroport avec des gens qui étaient là pour essayer d'évacuer le plus de monde possible. Alors je dois dire que cette histoire me trouble et va troubler énormément de gens. Évidemment, je cherche à avoir les commentaires du bureau de Marc Garneau depuis une heure ou deux et c'est le silence total. Mais disons que c'est quelque chose qui va devenir vraiment embarrassant pour le gouvernement, quoi.
Ça veut dire, Fabrice, que là-bas, on a quoi, rapatrié à peu près quoi, 3500 personnes environ, là, puis qu'il y aurait 20 000 Afghans en situation difficile. Mm-hmm. Ça veut dire qu'il y a des ressortissants canadiens là-bas qui sont encore sur place. Il y a des Afghans canadiens, puis il y a des Afghans qui ont aidé les forces de la coalition.
Tout à fait. Puis dans le chiffre d'environ 3500, personne ne sait exactement la ventilation parce que on sait aussi que les forces qui sont là-bas évacuent aussi des ressortissants d'autres pays ou des gens qui s'en vont dans d'autres pays. Donc dans les 3700, c'est pas forcément des gens qui vont au Canada. Et dans le lot de ceux qui vont au Canada, il y a aussi des citoyens et des résidents permanents. Donc la fraction d'Afghans qui ont travaillé pour le Canada, qui se sentent menacés ou qui feraient un métier, tous les gens que le gouvernement Trudeau disait qu'on allait accueillir, là, les journalistes, les défenseurs des droits humains, les défenseurs des droits des femmes, etc., on ne sait pas c'est quoi le pourcentage. Puis il va de soi que à partir d'aujourd'hui, là on sait que bon, le Canada a arrêté hier ses vols de rapatriement, je pense que la France c'est demain, il y en a beaucoup. Parce que le 31, c'est déjà dit, le mardi, c'est la date finale. Il n'y aura plus personne là. Donc, c'est sûr que la situation de ces gens-là va devenir catastrophique. Puis, ce sont des employés actuels d'un gouvernement étranger. Donc, on ne sait pas ce qui va leur arriver. Puis, je comprends leur désarroi. L'un d'eux est allé hier à l'aéroport. Il a quitté quelques heures avant le double attentat là, qui a eu lieu en fin de journée, heure locale. Mais ces gens-là, évidemment, se sentent vraiment abandonnés. Puis, que leur dire? C'est pas évident, c'est comme mon traducteur qui m'écrit tous les jours en me disant « aidez-moi, avez-vous du nouveau ?» Ben, j'ose pas lui dire que finalement, on pourra rien faire pour lui, quoi.
Bon, revenons sur les deux attentats. On le disait, des dizaines de morts du côté afghan, 13 soldats américains. Charles-Philippe David va être avec nous dans quelques moments. D'abord, ce qu'on comprend, Fabrice, c'est que la menace planait. C'était un peu logique dans la mesure où les talibans prennent le contrôle et que les forces étrangères se trouvent concentrées à l'aéroport de Kaboul.
C'est sûr que, et puis il y avait, comme tu l'as dit en introduction, il y avait des menaces très spécifiques. Hein. Dès la veille, les services de renseignement occidentaux puis le département d'État américain avaient dit, écoutez, quittez les alentours de l'aéroport, il y a une menace extrême d'attentat, et finalement ça a eu lieu quelques heures plus tard. Cet attentat a été revendiqué par le groupe armé État islamique, c'est sûr que ça portait sa signature. Ils ont attendu le bon moment pour le faire. Il faut dire que toute cette foule, ces milliers de personnes, hommes, femmes, enfants, qui sont massés devant les portes, les différentes portes de l'aéroport avec des soldats de la coalition, des soldats afghans, des talibans, etc. et tout, c'était une cible de choix pour eux. Et ils ont fait ça, comme d'habitude, avec un double attentat, un premier devant les portes, puis un deuxième, je dirais moins d'une heure plus tard, à proximité, parce que c'est un lieu où on donne souvent rendez-vous, les étrangers, enfin les représentations étrangères, donnent souvent rendez-vous à leurs ressortissants à cette porte-là, qui n'est pas vraiment la porte principale de l'aéroport, mais qui est un peu à l'est. Donc c'est sûr que, et dans leurs revendications, ils disent qu'ils ont fait exprès de s'approcher le plus près possible des soldats américains, des soldats afghans et des traducteurs pour évidemment en tuer un maximum en plus des civils, puisqu'il y a à peu près 13 soldats américains qui ont été tués, puis on pense que le bilan va monter. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que ça montre que le groupe armé État islamique et les talibans, ce sont des ennemis, mais ça date pas d'aujourd'hui, quoi. Ça fait au moins 3-4 ans que le groupe armé État islamique, qui a une branche très active en Afghanistan, à l'est de Kaboul, s'attaque à la fois aux soldats étrangers, mais surtout aux soldats afghans et aux talibans. C'est leur ennemi, ils les considèrent comme des traîtres. Depuis qu'ils ont signé un accord avec les Américains au Qatar, donc qui a mené à l'évacuation des troupes étrangères, l'État islamique considère que les talibans finalement ont dévoyé la cause du djihad et que c'est pas une vraie victoire qu'ils ont emportée mi-août, mais qu'au contraire, c'est l'Occident qui leur a facilité la tâche, quoi.
Fabrice, merci beaucoup. Et on suit ça, évidemment, tout au cours de la fin de semaine. Fabrice de Pierrebourg. Maintenant, Charles-Philippe est avec nous. Le président Biden a commenté en fin d'après-midi hier les phrases habituelles avec la promesse, évidemment, de répondre au moment et avec la force choisie par les Américains. Charles-Philippe, bonjour.
Bonjour, Paul.
Alors, donc, le président Biden disait il faut sortir d'Afghanistan pour éviter que des soldats américains meurent. Il se retrouve avec 13 morts du côté des soldats américains. D'abord, tes premiers commentaires là, sur l'événement et l'impact là, sur le président.
Bien, Paul, et comme Fabrice l'a tellement bien expliqué, ben aucune surprise, ce n'était pas de savoir si un attentat allait se dérouler, c'était de savoir quand et comment il allait se dérouler, et on a eu notre réponse hier, deux fois d'ailleurs, et avec des morts, ce qui change complètement la donne pour Joe Biden. Les morts, cette fois, ce sont les soldats américains, entre autres. Il a perdu, écoutez, il a perdu l'équivalent de la moitié des soldats qu'il a perdu en 2 ans en Afghanistan, pour l'instant, 12 ou 13 sur les 24 des 2 dernières années. Donc, ça frappe fort. Et pour Joe Biden, sa réaction hier était à la fois une réaction évidemment très émue. On a bien vu qu'il était franchement déstabilisé par ces événements-là. D'autant qu'il a perdu son fils en Afghanistan, l'un de ses fils. Et donc ça, c'est quelque chose qui l'a touché personnellement. Donc c'était un témoignage vraiment émouvant. Mais en même temps, il a aussi eu cette phrase retenue par les médias qui m'a ramené 20 ans en arrière, Paul. Les déclarations de George W. Bush à la veille d'attaquer l'Afghanistan lorsqu'il a promis une vengeance. Et donc c'est très clair que pour Joe Biden, il n'en a pas fini avec l'Afghanistan. C'est terrible, vous savez, parce que la stratégie de sortie de Joe Biden de l'Afghanistan finit par lui coûter plus cher que s'il était resté avec un minimum de soldats, soit 2500, et le voilà obligé de renvoyer des soldats les uns après les autres pour protéger l'aéroport et bien sûr garantir le retrait des Américains et des Afghans qu'on permet évidemment de quitter le pays. Alors c'est terrible parce que là c'est sûr que ça va lui coûter politiquement aussi. Il avait promis que la raison pour laquelle il se retirait de l'Afghanistan, c'était que la lutte au terrorisme était terminée. Et voilà justement que le terrorisme frappe. Admettez, hein, le message ne va pas très bien passer. Et espérons qu'il n'y aura pas d'autres attentats et qu'il n'y aura pas d'autres événements parce que là, on parlerait d'un dérapage complet de la décision et de sa politique face à l'Afghanistan.
Quelle sorte
Alors,
de...
c'est terrible.
Ouais, quelle sorte de réplique les Américains peuvent concocter? Quelles sont les options, tu penses?
Oui, ça, c'est intéressant aussi. Il faut de l'information, normalement, sur le terrain, Paul, pour pouvoir trouver déjà, débusquer les gens que vous voulez arrêter ou que vous voulez tuer. Et ce renseignement n'est pas disponible, je ne crois pas, à moins qu'il y ait des opérations spéciales américaines qui soient déployées à l'extérieur de l'aéroport de Kaboul. Alors voici un autre paradoxe, Paul, intéressant. Il est probable que le gouvernement américain, en secret, demande l'aide du gouvernement, du nouveau gouvernement des talibans, pour pouvoir trouver ces gens-là, qui sont apparemment connus, hein, et qui vivent à Kaboul, ce qui en rajoute une couche, pour les trouver et sans doute, soit utiliser des drones armés ou utiliser des chasseurs, ou des opérations spéciales. Alors, on est rendu au point où il est possible que le gouvernement taliban, et là, ça dépend de leur réaction à eux, hein, il ferait un grand coup diplomatique en dénonçant, bien sûr, ces attentats et en disant qu'ils sont prêts à collaborer avec le gouvernement américain. Et là, tout le monde va dire, c'est pas croyable. Mais c'est pas croyable en géopolitique, c'est pas la première fois qu'on entend ça. Alors, on va voir la suite des choses, mais c'est loin, loin, loin d'être fini.
Charles-Philippe, merci. Bonne journée.
Je vous en prie.
Au revoir. Charles-Philippe David, qui est le fondateur de la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques, et président de l'Observatoire sur les États-Unis à l'UQAM. Marc, un coup d'œil sur l'heure de pointe.